Minuit.
Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Samuel Doc est avec nous, nous évoquons le « je ne pense qu'à ça », cette fameuse phrase, enfin c'est plutôt « tu ne penses qu'à ça hein, », la phrase qu'on dit à notre partenaire quand il ne pense qu'à faire l'amour, quand il est sans arrêt en train de demander une relation sexuelle. On entend bien hein, jusqu'à présent, plutôt des femmes hein, d'ailleurs, qui ont témoigné sur un appétit sexuel. Encore une fois, on n'y est pour rien, je crois, Samuel Doc. C'est peut-être ça qu'il faut déjà dire en début de deuxième heure, c'est à nos besoins, on n'y est pour rien, quoi. Après, c'est ce qu'on va en faire, éventuellement, qui est jugeable ou pas.
Absolument, et puis je crois que ce qu'on entend avec nos auditeurs, c'est que chacun est singulier face à la sexualité. Il n'y a pas une sexualité, il y a une diversité sexuelle, une diversité des besoins. Et c'est pas toujours facile de s'entendre avec son partenaire, de se mettre au diapason de l'autre. Et on essaie de trouver, comme notre auditrice précédente, des compromis pour tenir.
Vous parlez évidemment dans vos livres hein, de tout ça, notamment dans Éloge indocile de la psychanalyse aux éditions Philippe Ray. Alors, l'anagramme de libido, vous avez trouvé ?
Non, j'ai pas eu assez de temps, je commence à être sur bidouille, bolide.
C'est très simple, bidoli.
Ah là 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 là, voilà, je ne le souhaitais
bidoli.
Pas.
Bidoli, voilà, ça m'amuse beaucoup parce que, c'est un petit jeu de mots.
Ah, joli anagramme.
C'est joli anagramme,
ah, oui, hein,
il fallait le trouver, absolument, absolument. Mmh. Bonjour Soélie.
Bonjour Brigitte, bonjour. J'ai avalé le prénom de votre invité.
Samuel Doc.
Voilà, c'est
Soélie.
C'est pas grave, c'est le stress, c'est un petit peu de trek.
Dans la précipitation là.
Ça arrive, c'est pas grave, il ne vous en veut pas.
Absolument pas.
Alors Soélie, c'est décidément, il n'y a que les femmes qui pensent qu'à ça. Hein.
Mmh.
Depuis le début de l'émission, on n'a que des femmes, Soélie.
Oui. J'y passe pas tout le temps, attention.
Bah, c'est souvent.
Dit-elle avec une voix mutine.
N'est-ce pas. Je n'y pense pas tout le temps, il m'arrive de dormir.
Voilà, c'est ça.
J'ai une vie très occupée, donc je n'ai pas forcément trop le temps d'y penser non plus. Mais j'avoue qu'il y a des situations, par exemple, comme hier, j'ai plusieurs amants réguliers, on va dire. Et d'habitude, il y en a un, il m'appelle quand je finis mon travail, il me dit, tu passes. Je dis, voilà, si je peux passer, je passe. Et là, il ne m'avait pas appelé, donc c'est vrai que j'y ai pensé, du coup. Par exemple.
Ah oui, ah oui. Quand vous dites plusieurs amants, c'est-à-dire combien ? 5, 8, 9
Bonne question, je ne les ai pas comptés.
Donc ça commence à faire un nombre suffisant pour que vous n'ayez pas comme ça la réponse sous la langue, si je puis dire.
Voilà, il y en a dans plusieurs régions en plus, donc je ne sais pas, oui, peut-être un tout petit peu plus de 5, mais en même temps il y a des femmes aussi, il n'y a pas que des hommes.
Ah, parce que vous aimez aussi les femmes. En fait, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage, Soélie, et je vais faire réagir Samuel Doc, c'est que il y a plusieurs manières de vivre une sexualité active. Il y a avoir besoin de faire souvent l'amour avec son partenaire, et puis il y a ce besoin de curiosité et de faire l'amour avec différentes personnes. C'est peut-être pas la même chose, non ?
Absolument, absolument. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que chaque chose est singulière, mais nos rencontres sont toutes singulières. Il y a peut-être différents besoins, différentes manières de faire l'amour, différents objectifs libidinales, on pourrait dire, différentes manières de soulager la pulsion. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Oui, l'objet change, l'objet de nos désirs change.
Oui, moi j'aime la variété, effectivement.
Ah, la diversité, oui.
Oui, la diversité, je suis d'accord avec le terme, plutôt.
Oui, parce que pour l'instant, est-ce qu'on pourrait... Enfin, je ne sais pas, c'est pas indiscret de vous demander quel âge vous avez ?
45
ans, d'accord. Vous avez eu déjà une relation continue ou pas ?
Oui, justement, avec un homme très, très, très demandeur. Et malgré que j'aime la sexualité, c'était beaucoup trop, par exemple. Vraiment beaucoup, beaucoup trop. Ça pouvait être 6 fois, voire plus. Et là,
par jour ?
Oui, là, ça devient plus un plaisir parce que ça devient.
C'est-à-dire que vous étiez, devenu son objet sexuel en fait. Vous étiez là pour assouvir ses besoins et non pas pour assouvir les vôtres.
Ah, tout à fait. Là, ça devenait plus.
C'est intéressant. Donc vous êtes partie d'une relation où vous n'étiez pas heureuse, hein, finalement, sexuellement, à une époque où vous cherchez à découvrir un peu avec chaque homme autre chose de vous-même.
Tout à fait. Voilà, parce que chacun est vraiment très différent, a une façon de faire très très différente et ça me
va. Mais alors moi je me permettrais Soélie de faire une sorte de rapprochement entre les deux, parce qu'au fond dans les deux relations, que ce soit quand vous étiez avec un homme qui avait besoin beaucoup 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 de vous utiliser, et bien vous êtes passé de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'au départ il vous utilisait comme un objet, et je dirais qu'aujourd'hui vous utilisez ces hommes comme des objets qui vont vous permettre de vous réaliser en tant que femme. Est-ce que ça vous parle, ça?
C'est fort possible, oui.
Peut-être aussi comme une sorte de revanche, aussi de reprise de contrôle, de contrôle de son corps. La question que je voulais vous poser, moi, c'est comment cet ex réagissait lorsque il exprimait son besoin répété, que vous en pouviez plus. Quelle était sa réaction lorsque vous vous dérobiez à lui?
Genre, je l'aimais plus. Mais tu comprends pas. Ouais, mais j'ai besoin. Oui, mais j'avais beau trouver tout, enfin, pas forcément des prétextes parce que c'était vrai, mais il n'entendait pas, quoi.
Voilà, il y a un vécu d'atteinte narcissique, tu m'aimes plus, ça illustre un peu ce que je disais dans notre introduction aujourd'hui, c'est qu'il y avait vraiment, probablement, un besoin de réassurance, mais vous ne pouviez pas le réassurer, il avait besoin d'autre chose, il croyait que ce dont il avait besoin, c'était du sexe, alors qu'il avait besoin d'autre chose, c'était autre demande.
Le sexe était le symptôme.
Absolument, comme dans toute addiction. Dans toute addiction.
Oui, et vous êtes resté combien de temps avec lui?
5 ans.
Oui, et 5 ans parce que vous étiez
heureuse.
Mais j'imagine oui qu'à un moment c'est vous qui êtes partie, je suppose.
Oui, j'en pouvais plus de ce manque d'assurance qu'il avait, de toujours devoir le rassurer en me disant que je lui donnais jamais assez, c'était compliqué.
Et aujourd'hui, vous pouvez quelque part. Mais je crois que vraiment, c'est intéressant de comprendre dans ces deux comportements, quelque part, qu'il y a quelque chose qui se retrouve, je trouve.
Oui. Comme l'envers et l'endroit d'une même médaille, sur le rapport entre le désir et le manque, sur le rapport entre le masculin et le féminin, sur le rapport entre l'intensité d'une pulsion.
D'accord.
Oui. Mais là, ce qui est formidable, Soélie, c'est que vous êtes en train de vous réaliser, de vous découvrir. Moi, je serais pas. Vous faites comme vous voulez. Il y a aucun jugement à avoir. Mais je serais pas étonnée qu'à un moment donné, vous arriviez à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une bonne entente sexuelle, avec suffisamment de libido de part et d'autre. Je pense que c'est une période certainement transitoire.
Je pense aussi.
Je pense, oui, parce que effectivement, je ne renonce pas à trouver un jour quelqu'un qui me convienne vraiment.
Non, mais il arrivera quand vous serez prête, vous savez, Soélie. Je crois qu'il faut pas. Enfin, moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est pas en cherchant la bonne rencontre qu'on la trouve. Il faut laisser les choses se faire. Et là, de toute façon, ce qui est bien, c'est que vous accumulez des expériences, vous accumulez des plaisirs, et vous êtes en train de vous réaliser, hein, tout simplement. Parce que j'aime bien ce que nous disait dans la première heure une femme, c'est quand un homme est en moi que je me sens femme. Je pense que tous ces amants vous permettent de vous sentir femme.
Oui, tout à fait. Oui. Chacun à leur niveau.
Il y a peut-être aussi parfois chez certaines personnes une sorte de répétition d'une adolescence manquée, d'un moment où on découvre son corps, on découvre le corps de l'autre, sa sexualité. Certaines personnes, pour différentes raisons, familiales, religieuses ou que sais-je encore, n'ont pas pu toucher du doigt leur sexualité et se rattrapent plus tard en revivant ces émois multiples pour redécouvrir leur corps et redécouvrir leur individualité. Eh oui.
Oui, alors enfin, je ne sais pas ce qu'on peut vraiment dire, mais très jeune, à l'âge de 13 ans, j'ai été abusée. Et après, j'ai vécu pendant 10 ans avec le père de ma fille qui ne s'est jamais intéressé à moi, carrément.
Presque, voilà, donc,
on va dire. Voilà, c'était moi qui allait le verdier et pas l'inverse.
Voilà. Oui, donc on voit bien que tout votre parcours amoureux et sexuel est un parcours de réparation. Mais encore une fois, je ne le dirai jamais assez, la sexualité a aussi cette possibilité de se réparer.
Hein. Absolument.
Je crois que c'est vraiment important de le signaler parce qu'on a tellement tendance à critiquer toute sexualité qui ne serait pas normative. C'est une grave erreur. Elle a cette, aussi cette possibilité-là.
Ah, je suis absolument d'accord. Et je comprends complètement. Et moi, dans ma thèse universitaire, je disais que c'est un théâtre politique et thérapeutique. Oui, je suis d'accord avec vous, Brigitte.
Ne changez rien, Soeli, vous êtes sur la bonne voie. Non, merci. Merci à vous, merci à votre témoignage. Allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Si les hommes ne pensent qu'à ça, ils peuvent appeler aussi. Hein.
Sud Radio, à Lannion, en DAB+.
Sud Radio.
Venait du Connecticut, on peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner à coup des pommes motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match de baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse? Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur. Moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzelas. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse. C'est naturel, ça sonne comme une évidence. Il danse, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Il danse pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Il danse sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Il danse.
Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Samuel Doc est avec nous, psychanalyste, et nous évoquons aujourd'hui la sexualité, le fait d'y penser beaucoup, d'avoir des besoins, et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, évidemment, même si on a quand même encore aujourd'hui, pourtant... qu'est-ce qu'on a avancé hein, sur ce sujet, mais on a encore tendance à considérer que c'est pas bien. Il y a encore cette notion.
Hein. Oui, il reste un grand tabou qui auréole la sexualité, des interdits, alors qu'ils peut-être prennent de nouveaux visages aujourd'hui avec à notre époque. Je parlais tout à l'heure du retour de certains fondamentalismes religieux, par exemple, où la femme ne peut pas être reconnue comme possiblement jouissante. Voilà, il faut composer avec tout ça et surtout lutter et résister. De toutes nos forces et de tous nos cœurs.
Merci Tom de témoigner parce que vous êtes le premier homme qui témoigne sur le sujet depuis 14 heures. Donc on va se demander si c'est pas les femmes qui prennent aussi le pouvoir sexuel. Hein.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel.
Bonjour Tom.
Alors non, on va pas leur laisser le pouvoir quand même. parce que également on vit d'en profiter. Et c'est vrai que moi je suis... alors accro-addict, on va dire peut-être pas addict, mais le sexe est vraiment quelque chose de très important dans ma vie de tous les jours. Et comme je dis à chaque fois, c'est le seul plaisir qui est totalement gratuit, qui devrait être recommandé par tous les spécialistes, les médecins, voilà, avec tout ce que ça procure. Et le fait de me passer de sexe, quand j'ai pas le choix, bien sûr, j'ai pas le choix, mais dès qu'il y a possibilité, oui, c'est dans mon esprit, c'est dans le quotidien, ça apporte toujours, voilà, un bon orgasme, apporte tellement de choses.
Alors, vous avez raison, ça a été reconnu sur le plan de la santé. La sexualité est un très, très bon, très, très bon pour la santé. On sait que les couples qui continuent à faire l'amour au grand âge ont 40% de longévité de plus et en bon état. En revanche, est-ce que ne pas faire l'amour a des inconvénients ? En tout cas, ça a des inconvénients sur le plan psychique.
Ah oui.
Puisqu'il y a frustration.
Ça génère de l'anxiété, de l'irritabilité, parfois de la mélancolie. Donc oui, ça a de vraies conséquences psychiques.
Donc ça, c'est important de le rappeler, hein, Tom. Je vous laisse, je vous redonne la parole, pardon.
Allez-y. Pardon, excusez-moi. Non, mais effectivement, parce que même des fois, quand ça ne va pas, d'arriver à succomber soit au désir de l'autre ou à se dire bon allez on va s'offrir une petite parenthèse même quand on n'est pas trop dedans et que le partenaire a envie de nous remotiver, ça nous fait un bien monstre et puis après on repart de plus belle, on se requinque. Il y a vraiment quelque chose de particulier avec le sexe, la sexualité et encore plus à part on va dire l'acte en lui-même, tout ce qui est autour de la séduction, recroiser quelqu'un dans la rue, un regard, une femme qui va me regarder, qui va me sourire, ça va me donner le sourire, je vais pouvoir m'imaginer des choses, bien évidemment. Et rien que ça, ça me met un coup de peps sur le moment, sur ce que je vais vivre. Et c'est vraiment, pour moi, c'est très appréciable. C'est pas souvent, mais c'est très appréciable.
Et est-ce que vous, quand vous, justement, vous allez avoir ce signal qui s'allume en vous, quand vous croisez un sourire, est-ce que ça va vous donner envie de séduire cette femme ?
Alors, il faudrait que j'ose. Ça va. Alors, bien sûr, j'aimerais séduire cette femme-là, mais surtout, moi-même, je vais devenir souriant. Et après, même si je ne l'ai pas séduite, après, je vais avoir, je pense, une attitude qui va être totalement différente quand je vais croiser les gens. Ça va m'avoir donné un petit peps ou autre. Je ne vais peut-être pas oser aller vers elle. Mais en tout cas, je sais que si je la croise ou si je sens son odeur, son parfum, peu importe, et après, je vais être ailleurs, comme s'il y avait des choses qui se déclenchaient en moi. Et peut-être que j'ai l'impression de me rendre un peu plus accessible aux autres. Alors, ça ne porte pas forcément ses fruits, mais en tout cas, en moi, ça me fait un bien.
Mais on sait que de sentir complet, ça nous fait du bien, hein, de toute façon. Donc, la séduction, je trouve dommage d'ailleurs qu'on soit dans une époque où la séduction finit par devenir presque dangereuse, alors que, je veux dire, il n'y a rien de désagréable à regarder quelqu'un, à se sourire, ça n'engage à rien, enfin...
Oui, tout à fait, parce que là, je remarquais, par exemple, j'étais dernièrement dans un salon de jeux de société, hein, et puis je jouais avec des femmes, et en fin de compte, il pouvait y avoir des sourires, des petits trucs un petit peu taquins, mais qui sont liés à du jeu, mais de la proximité, mais c'est pas pour autant que je me dis, oh là, ça y est, j'ai une touche, je vais lui sauter dessus.
Voilà.
Non, on répond, et c'est agréable, et puis après, c'est chacun retourne de son
mais
côté.
Bien sûr, voilà, mais
là. Et ça, c'est génial.
C'est ça.
Ouais, ça, c'est génial.
C'est ça, Tom, et d'ailleurs, ça permet de mettre le curseur sur une chose importante dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui dans notre émission, qui est l'hypersexualisation. L'hypersexualisation, c'est justement quand on n'arrive pas à avoir un lien avec quelqu'un, un lien amical, un lien familial, sans introduire une sexualisation, sans érotiser, en fait, le rapport à autrui. Ce sont des gens, les personnes hypersexuelles qui effectivement, même dans leur relation amicale, hein, y a toujours une ambiguïté, très lourde d'ailleurs, souvent pour les autres. Et voilà, et là vous faites bien la part des choses entre justement cette chaleur humaine et l'hypersexualisation. Ce sont deux choses différentes.
Oui, et alors là vous touchez un point essentiel sur lequel il faut absolument qu'on revienne avec vous, Tom. C'est-à-dire que la séduction n'a rien à voir avec la sexualisation. Et comme vous le dites, on se regarde, on se sourit et on se fait du bien, basta, et ça n'engage absolument à rien. Alors après, il y a des femmes ou des hommes qui sont un petit peu toujours dans le besoin d'allumer, hein. Et ça, c'est un travers, hein. La femme qui allume le mec et qui lui fait croire que sexuellement elle est disponible pour après lui dire cause toujours, tu ne m'intéresses pas, c'est quelque chose, enfin je veux dire, c'est un travers, hein, qui parle d'elle-même d'ailleurs, hein, et qui indique sans doute une blessure ou en tout cas une faille.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ça?
Ah, mais évidemment, c'est la quête de restauration narcissique.
On est bien d'accord, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont allumeuses, Ce qui n'est pas la même chose que de, d'être dans un rapport de séduction. Et puis, il y a autre chose que je voudrais dire. Ces femmes qui se sentent harcelées ou agressées parce qu'un homme va les regarder un petit peu plus que ce qu'elles supporteraient, c'est pareil, ça parle d'elles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose chez elles qui est blessée. Et c'est généralement des femmes qui ont eu des mauvaises expériences ou qui sont... voilà. Et je crois que c'est dommage qu'on ne puisse pas pouvoir parler de ça plus clairement dans notre société, et ça éviterait bien des malentendus qui sont de part et d'autre d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et puis je vois par exemple, là par rapport à ce que vous disiez, même s'il n'y a pas de sexe derrière ou autre par rapport à par exemple, ce que j'ai vécu ce week-end, il y a une excitation qui reste derrière quand on se bat. Voilà, chacun, on s'est regardé, on a rigolé, voilà, taquin, mais derrière, chacun, comme je disais, repart faire autre chose.
Oui, il en fait ce qu'il en veut.
Il reste comme une excitation, quoi qu'il arrive derrière, même s'il n'arrive rien du tout. C'est cette excitation, ce moment de se dire « Ah, c'était bien, qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que j'aurais pu ?» Et ce n'est pas grave, en fin de compte, parce que ça, moi, personnellement, ça me met bien. Je suis bien après derrière, et j'espère que ma partenaire de jeu, voilà, a vécu la même chose, le cours d'un instant, et se dire « On était là, et puis on était bien, on oublie tout. » Et puis, même s'il n'y a pas du sexe du tout, voilà, mais ce n'est pas grave. Mais en tout cas, on ressort avec... un petit quelque chose, j'allais dire dans le cœur, comme ça.
Un petit cadeau, oui.
Voilà, exactement, un petit cadeau qui fait que c'est un moment sympa, agréable, et qu'il faut arriver à dissocier du fait d'être, comme vous disiez tout à l'heure, d'être trop lourd sur les gens, sur les hommes, sur les femmes, et ainsi de suite, ou alors après, d'avoir le fait, attention, on n'a plus le droit de séduire, on n'a plus le droit de rien faire, et autres. C'est à arriver peut-être à redonner confiance aux femmes, je ne sais pas. Il y a quelque chose, peut-être, de la part des hommes, continuer à tenter, à oser, en étant galant entre guillemets.
Ah bah, il faut être sacrément courageux, je trouve, aujourd'hui, pour oser être dans la séduction, hein, parce qu'il y a tellement de sensibilité sur le moindre geste avec les applications de consentement, etc. Alors pour le pire et pour le meilleur, j'ai envie de dire. Mais là encore, votre témoignage ouvre sur autre chose, c'est que parfois sur les personnes qui vont être dans une recherche de rapport sexuel mais sans être jamais satisfait, il peut y avoir, on l'a entendu un petit peu avec une de nos auditrices précédentes, la recherche en fait d'une relation avec une personne du même sexe, c'est-à-dire qu'un homme va chercher en fait une femme, mais une femme phallique, parce qu'en fait il refoule quelque chose de l'homosexualité. Ça, je l'ai beaucoup observé en consultation, notamment avec un patient que je suivais qui avait des rapports, je veux dire, c'était 20 rapports par semaine, et il a fallu faire émerger quelque chose du refoulement, hein, concernant l'homosexualité, parce qu'en fait il cherchait un homme, et c'est pour ça qu'aucune femme ne parvenait à le satisfaire. Brigitte, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça me paraît tout à fait cohérent, bien sûr. Mais de toute façon, dans notre comportement, dans la sexualité, dans le rapport à l'autre et donc à la séduction, ça parle toujours de nous. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose. Le jour où on a compris, et ça, c'est la psychanalyse qui me l'a appris. Quand on juge quelqu'un, ça parle de nous. Quand on apprécie telle vedette, ça parle de nous. Enfin, tout parle de nous.
Absolument.
À partir du moment où on comprend ça, on est déjà beaucoup plus à l'aise avec les critiques des autres, les jugements des autres, puisque de toute façon, ça parle d'eux, ça parle pas de nous.
Exactement. Ce que disait Paul Valéry, tout ce que tu dis parle de toi, surtout quand tu parles des autres.
Voyez, Tom, donc de toute façon, à partir du moment où on a cette compréhension de ce qu'est l'être humain, bon, on peut plus facilement être dans une relation apaisée avec les autres.
Oui, tout à fait. Mais voilà, et c'est comme vous le dites, hein, moi, c'est vrai que j'aurais toujours peut-être du mal à me dire aller faire la séduction, le premier pas, tout ça, mais en tout cas. Moi, ce que je retiens, c'est quand je prends les transports en commun, j'essaie de regarder les femmes autour de moi, je souris, voilà. Et je me dis, ça coûte rien, ça prive de rien. Et puis, si je peux avoir un sourire en retour, c'est très bien. Et puis, ça s'arrête là. Et ça fait un petit truc en moi.
Ah, bah, voilà. Bravo, Tom. Ah, bah, bravo.
Oui, mais à mon avis, on vous a jamais remis à votre place, si ?
Non, parce que les femmes ont cette particularité de pas forcément montrer. Enfin, un homme quand il regarde, on va voir qu'il regarde. Et je pense qu'une femme sait regarder sans regarder réellement. Et j'ai pas forcément souvent l'opportunité d'avoir une femme qui me regarde en premier, qui me fait un grand sourire. Mais juste le fait, moi-même, d'arriver à regarder quelqu'un qui me regarde vite fait,
je
sens un léger sourire, c'est suffisant pour moi.
Oui,
déjà.
Absolument. Mais ça montre bien que vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle le plaisir de se regarder, de se séduire, sans être du tout avec une pensée...
Le prédateur.
Voilà, et c'est pour ça que les femmes ne se sentent pas agressées, encore une fois.
Et puis là encore, c'est neurophysiologique, c'est les neurones miroirs. On adapte. Moi, je fais tout le temps la tronche dans le métro, mais c'est parce que tout le monde fait la tronche. Mes neurones miroirs réagissent. réagissent. Donc peut-être que c'est aussi parce que vous communiquez quelque chose d'une grande joie que les autres réagissent. Il y a une rencontre de cerveau à cerveau qui s'opère et finalement ça donne envie un peu de sourire.
Mais vous avez raison, il faut on sourit, on devrait se sourire beaucoup plus, Tom.
Ah oui, moi je
merci de ce message. Merci de ce message. On va faire une petite pause, on va se retrouver pour le Love Conseil, les trois questions affirmatives qui prouvent que l'on s'aime. C'est le Love Conseil du jour. Oui,
chouette,
Samuel.
Chouette.
À tout de suite, dans un instant.
Sud Radio Aix-en-Provence.
95.1.
Sud Radio.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, c'était un Love Conseil pour Samuel Doc, tout particulièrement, mais vous avez le droit d'écouter quand même si vous êtes sur Sud Radio. Les trois questions affirmatives pour être sûr de s'aimer. C'est vrai que ça arrive, qu'on doute un peu. Est-ce qu'on est dans une relation qui va bien? Est-ce que, etc. Donc voilà trois questions essentielles. Et si vous répondez sans hésiter par l'affirmative à ces trois questions, ben vous pouvez être sûr de vos sentiments. Et puis, essayez de voir si votre partenaire répondrait également par l'affirmative à ces trois questions. Je pense pas que ce soit tellement un test qu'il faut faire à deux, parce qu'on sait jamais. Je ne voudrais pas être responsable d'un conflit ce week-end. Le test, en fait, a été conçu par deux Américains. Donc, a priori, il a fait ses preuves. Pas parce que les Américains sont plus doués que les Français, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, ça a été testé sur énormément de monde. Parce qu'aux États-Unis, quand ils font un test, ils prennent toujours beaucoup plus de monde qu'en Europe. Première question, aimeriez-vous avoir votre partenaire pour ami? Et alors, ça peut paraître curieux, cette première question, mais je trouve qu'elle est assez juste, parce que au-delà des relations charnelles, pour que la relation soit solide, il faut qu'on sache qu'on peut compter sur l'autre, quoi absolument, qu'il arrive. Et absolument. C'est pas toujours si fréquent. Donc ça, je trouve que c'est absolument une bonne question. Deuxième question. Respectez-vous votre partenaire comme individu à part entière? Et ça, c'est pareil, c'est essentiel. Il faut l'apprécier, il faut l'admirer, son partenaire. Sinon, à un moment ou un autre, ça va clasher. Enfin, ou en tout cas, l'amour ne va pas durer. On peut pas continuer à aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas ou qu'on n'admire pas. Vous êtes d'accord avec ça?
Complètement.
Et dernière question. Acceptez-vous votre partenaire tel qu'il est, avec ses défauts, sans vouloir le changer? Et ça, c'est la question qui dérange, évidemment, parce qu'on a toujours tendance à avoir un peu tendance, peut-être plus les femmes même que les hommes, avoir tendance à vouloir changer l'autre. Mais non, l'autre, il est comme il est. Et éventuellement, on peut changer son comportement vis-à-vis de lui pour espérer faire changer un petit peu quelque chose. Mais de toute façon, voilà. Et c'est vrai que c'est une question plus délicate, mais aimer l'autre, c'est l'aimer dans sa vérité. Donc voilà, mais je trouve que ces trois questions sont finalement assez justes. Vous êtes d'accord ou pas?
Absolument, absolument d'accord. Il y a cette idée d'une solidarité dans le couple qui m'apparaît comme primordiale, l'idée du respect et de cette entente pour l'autre, pour sa singularité, son individualité. Ce qui explique même que parfois, quand on aime l'autre, mais qu'il ne nous aime plus, eh bien, on le laisse partir d'ailleurs. On le laisse partir parce que on l'aime dans son individualité et pas parce que on veut l'absorber dans une espèce de fusion complètement mortifère. Donc, super, super test.
Oui, mais ce que vous dites là, c'est quand même pas si évident que non. Ça. En général, on a du mal à faire partir l'autre ça, si on sûr. L'aime encore. Mais moi, c'est souvent une question que je posais, je la pose plus parce qu'elle est trop horrible. Mais je disais toujours, est-ce que vous préférez qu'il vous quitte pour quelqu'un d'autre ou qu'il meure? Et je sais que cette question choque beaucoup, mais quelque part, c'est ce que vous êtes en train de dire. Absolument. On aime quelqu'un, on doit accepter qu'il parte pour quelqu'un absolument. D'autre, évidemment.
Aimer quelqu'un, c'est l'aimer libre.
Normalement. Mm-mm. Mais on sait très bien que la possession, que le besoin, enfin bon, bref.
Ah oui.
C'est un autre thème d'émission.
Exact.
On va revenir sur la psychogénéalogie, qui j'imagine en tant que psychanalyste Samuel Dogg, vous connaissez bien.
Oui.
À l'occasion de ce livre, Se libérer des mémoires familiales, aux éditions Robert Laffont, nous avons Sophie Duverne qui est en ligne avec nous. Bonjour, bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes psychogénéalogiste et la psychogénéalogie, déjà en deux mots, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste?
Alors, la psychogénéalogie, c'est une approche thérapeutique qui a pour objectif d'identifier quels sont les héritages psycho-émotionnels que nous avons reçus de nos ancêtres et ensuite de nous permettre de nous en libérer ou de les transformer ou d'y donner du sens pour retrouver un maximum du libre arbitre.
Ben, je trouve que la définition est assez claire, hein, Samuel.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que vous signalez bien qu'on peut être parfois rattrapé par quelqu'un qui est 3-4 générations antérieures. Hein. Ce n'est pas juste nos parents, nos grands-parents, ça peut être beaucoup plus ancien.
C'est ça, en général, on remonte jusqu'à 4, parfois 5 générations. Bon, pas plus, parce que d'abord, au-delà, ça fait énormément de monde. Et souvent, au-delà, on perd aussi l'histoire. Donc, c'est plus difficile de faire les liens avec la vie de la personne.
Alors, il y a des termes qui sont très psychanalogiques, notamment le fantôme, voilà, la crypte. Le secret de famille, la loyauté familiale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour que nos auditeurs comprennent bien?
Ben, peut-être ce que j'ai envie de dire, c'est que dans une famille, ce qui se transmet de génération en génération, ce sont à la fois des croyances qui sont véhiculées par ce qu'on appelle le mythe familial ou le roman familial, en tout cas en grandissant dans une famille, vous êtes imprégné d'un certain nombre de croyances qui viennent de vos parents mais aussi de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Ça, c'est une partie de ce qui nous influence finalement dans notre vie de tous les jours. Et puis, ce qu'on reçoit aussi, ce sont des émotions qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas pu être verbalisées dans les générations précédentes, peuvent se transmettre de génération en génération. Donc, pour moi, majoritairement, ces deux versants qui sont à travailler quand on a envie de faire un travail sur soi et de se libérer de ce qui ne nous appartient pas.
Et d'ailleurs, vous parlez évidemment des secrets de famille hein, dans ce livre, Sophie Duverne. On sait aujourd'hui qu'il faut dire aux enfants hein, les choses et ne pas les cacher, alors que c'était plutôt comme ça que ça fonctionnait dans les générations précédentes. Hein.
Oui, surtout que c'est parfois pour ne pas blesser l'autre. J'ai publié mon fameux « L'enfant thérapeute » où ma mère, pour ne pas me blesser, ne parlait pas de son enfance meurtrie, battue presque à mort par son propre père. Donc le secret, je sais les effets néfastes que cela produit. Je pense à Dolto qui disait « Ce que la première génération ne dit pas, la seconde le porte dans son corps ». Donc c'est absolument fondamental d'explorer tous les liens familiaux, intrafamiliaux et surtout intergénérationnels, transgénérationnels. Oui.
Et vous conseillez, Sophie Duverne, moi c'est ce que je conseille souvent, c'est de parler à ses parents tant qu'ils sont encore en vie pour avoir plus de renseignements sur sa propre généalogie, justement.
Oui, c'est ça. Alors parler à ses parents, parler à ses grands-parents aussi, parler aux membres de la famille qui parfois se sont éloignés. Et puis ce que je conseille aussi, surtout vraiment, vraiment, c'est de prendre des notes. Parce que souvent, on parle et puis on se dit « Ah, super, j'ai appris plein de choses. » Et puis 6 mois, 1 an, 2 ans après, quand il s'agit en thérapie ou autre, enfin, quand il s'agit de ressortir ses souvenirs, mais parfois, on a oublié. Et moi, j'entends souvent des gens qui disent « Ah, zut, elle me l'avait dit, mais j'aurais dû noter, je ne me souviens plus. »
Oui.
Sachant que l'inconscient peut capter une information qu'il aura vite fait d'envoyer aux oubliettes si elle est importante ou voilà.
Oui.
Parfois, l'inconscient nous joue des tours, c'est ce que je veux dire.
Exactement. Moi, je suis un grand lecteur d'une psychogénéalogiste qui est Christine Ulivucci, qui a publié 2 livres, Psychogénéalogie des lieux de vie et ses photos qui nous parlent. Et j'aime bien ce qu'elle propose de faire à ses patients. Elle les fait retourner sur les lieux qui ont compté dans l'histoire familiale, explorer, revoir la mémoire des lieux et étudier aussi des photos de famille.
Ah, ça,
et utiliser les photos comme médias thérapeutiques, c'est absolument passionnant. Donc ça, j'y crois tout à fait. Ce que je reproche, je ne sais pas ce que vous en pensez, madame Duverne. Ce que je reproche à la psychogénéalogie, c'est 2 choses parfois, mais vous me direz votre opinion, et je pense qu'on peut tout à fait être praticien et avoir aussi un point de vue critique. C'est que dans certains cas, je trouve qu'on est parfois dans des choses presque occultes, avec l'influence du chamanisme, sur ça, même dans les travaux de Didier Dumas, enfin tous ces trucs-là. Je trouve que vraiment ça devient un peu presque du spiritisme ou presque des choses comme ça, très ésotériques, qui sont pas très sérieux, je trouve, du point de vue clinique. Ça, vous me direz ce que vous en pensez. Et aussi, parfois, à trop se pencher sur les générations précédente, on oublie déjà tout ce qui se joue dans la relation directe aux parents, qui sont les interlocuteurs privilégiés. Donc c'est les 2 nuances que je ferai, même si je me réjouis de lire votre livre.
Alors je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé un podcast qui s'appelle Psychogénéalogie et compagnie. L'objectif du podcast, c'était justement de remettre un petit peu des vérités, de remettre un petit peu de théorie psychanalytique, d'histoire, de socio-histoire autour de la psychogénéalogie, parce que c'est vrai que parfois...
On y met un peu trop de magie et on va peut-être...
Oui, c'est ça.
Vouloir interpréter et donner du sens à tout. Dans votre livre « Se libérer des mémoires familiales » aux éditions Robert Laffont, Sophie Duverne, ça m'a amusée parce que vous faites un petit chapitre, vous parlez de la symbolique des prénoms et il y a presque un petit côté lacanien, par exemple dans Tom, je parle de Tom puisqu'on a
eu
« Tu es un homme », voilà, dans Tom on entend « Tu es un homme », enfin, etc. Dans Didier on entend « Dédier », vous. Alors, ce serait donc inconsciemment qu'on choisisse ce genre de prénom, Sophie ?
Oui, alors les prénoms, c'est vraiment un fil à tirer. Hein. C'est
bien
pareil,
sûr,
si on n'est pas
sûr.
Dans des vérités. Mais l'idée, c'est de s'interroger sur les raisons qui font que nos parents nous ont donné nos prénoms. Et effectivement, il y a des ressorts très inconscients.
Et alors, vous savez pourquoi on vous a appelé Sophie ?
Alors oui, la sagesse, l'enfant parfait.
Ah,
d'accord.
Les malheurs de Sophie.
Oui.
Ça aurait pu aussi, mais je crois que pour moi, c'était plus le versant sagesse.
Ah bah chouette.
Alors moi, j'ai été très déçue quand j'ai demandé à ma mère pourquoi on m'avait appelée Brigitte. C'est parce que j'ai un nom de famille très très long et qu'elle cherchait des prénoms très courts. Alors je me suis dit, là, elle n'a pas dû avoir beaucoup travaillé sur son inconscient. j'ai pas eu plus de réponses, malheureusement. Et vous savez, Samuel?
Samuel, ça veut dire envoyé par Dieu, et je crois que mes parents voyaient en moi, à cette époque-là du mois, un petit miracle. Ça a changé depuis.
Ouais. Non, mais c'est, je trouve que ça, c'est une question que tout le monde devrait se poser à ses parents. Pourquoi vous m'avez appelé par ce prénom, non, Sophie? Sophie Duverne, ce serait déjà le premier conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent.
Mais exactement, et souvent le prénom, c'est vraiment un fil à tirer. C'est-à-dire que Vous verrez qu'on peut tenir toute une conversation et apprendre beaucoup de choses simplement en tirant le fil du prénom.
Mmh, mmh. Très juste.
En tout cas, c'est une belle manière de commencer à parler de avec ses parents de pourquoi on est là, comment et qu'est-ce qu'ils attendaient de nous finalement.
C'est ça, du projet qu'ils avaient pour nous.
Et puis, même si on peut changer dans certains cas de prénom, c'est quand même quelque chose qui nous accompagne toute la vie, notre prénom, un reflet d'identité. Et c'est signe ce qui marque notre venue au monde. C'est le premier signifiant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur prénom. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, vous avez remarqué, Sophie, ou pas?
Pas spécialement, hein, pas spécialement, mais bon, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le choix de leur prénom, effectivement.
Mmh. Alors, Sophie Duverne, vous êtes une jeune femme, hein, et donc forcément, vous parlez beaucoup du féminin dans ce livre. Puis de toute façon, aujourd'hui, il faut parler du féminin, sinon on est ringard. c'est vrai que pour les femmes, les choses ont beaucoup, beaucoup bougé et bougent encore beaucoup, donc... Tout ça aussi, ça doit se. Il faut être clair avec son féminin psychogénéalogique, si je puis dire, et la femme qu'on a envie d'être.
Oui, alors l'idée du livre, c'était vraiment de dire que on porte tous en nous la mémoire de la situation des femmes des générations précédentes, et que parfois il peut y avoir comme une dichotomie, comme une opposition entre l'image de la femme d'aujourd'hui, en tout cas toute cette libération qui est en cours, hein, qui n'est pas encore terminée, et que finalement on peut porter en soi des structures psychiques un peu archaïques relatives au féminin ou à la place de la femme dans le travail ou dans la relation amoureuse. Et c'est intéressant d'aller les scruter, d'aller les observer pour pouvoir s'en libérer et transmettre une autre image de la femme aux générations suivantes.
Très belle formule, je trouve.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a par exemple des femmes qui n'aiment pas les hommes parce que ça vient des générations précédentes. Il y a des femmes qui se taisent parce que jusqu'à présent les femmes se taisaient. Enfin, on voit bien que, et là, ça crée des liens de loyauté. On ne sait plus très bien qui on est en tant que femme, et la généalogie, la psychogénéalogie peut aider justement. Hein.
C'est ça, exactement. Ça peut aider à transformer, en fait, l'image que nous avons de la femme que nous sommes.
Et à nous réinscrire, et c'est ça que j'aime dans votre propos, c'est nous réinscrire dans une filiation, c'est refaire sienne cette histoire qui nous a mise au monde avec tous nos ancêtres. Je trouve que c'est presque une poétique, en fait, une poésie.
Et c'est assez d'actualité, et c'est bien d'en parler. Sophie Duverne, vous évoquez évidemment aussi la répétition des abus sexuels, hein, souvent des mères abusées qui ne voient pas que leur fille est également abusée, etc. Comme si c'était et tant qu'on ne n'ouvre pas la parole, ça continue. C'est ce que vous voulez dire?
Exactement. Alors sans que ce soit une malédiction, mais c'est vrai que c'est un constat que font tous les psychogénéalogistes ou psychanalystes transgénérationnels. C'est il y a très souvent dans les familles une répétition des situations d'abus ou des situations d'inceste de génération en génération. Et c'est important d'alerter là-dessus aussi, et de libérer la parole permettra aussi de mettre fin à ces conséquences transgénérationnelles.
Absolument. On peut contrarier cette destinée filiale. Je suis d'accord avec vous.
Merci en tout cas, Sophie Duverne. Se libérer des mémoires familiales, ces éditions Robert Laffont, vous faites à peu près le tour, hein, de tout ce qu'on peut dire sur la psychogénéalogie. Si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment ce livre, Se libérer des mémoires familiales, c'est aux éditions Robert Laffont. J'en profite pour citer un autre livre qui vient de sortir dans une collection assez intéressante qui s'appelle Point Vivre. C'est Michel Bromet Camus qui en est l'auteur, guérir de sa famille et enfin vivre libre, vivre sa vie, dénouer les fils du passé pour apaiser ses souffrances. Voilà, donc c'est je voulais en profiter pour en parler également de ce livre. Merci beaucoup Sophie Duverne, on fait une petite pause et puis on va revenir, peut-être qu'on est obsédé sexuel à cause d'un grand-père qui était complètement lubrique, ça peut arriver aussi, hein, ce genre de comportement évidemment. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite.
Sud Radio Menton.
97.9.
Sud Radio.
toi, le fil, tu t'en es pas si droit.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Nous sommes toujours avec Samuel Doc. On va revenir sur le sujet du jour, les obsédés sexuels. Enfin, bien sûr, quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'humour. Vous vous doutez bien, Samuel Doc. C'est pas moi qui vais juger, évidemment. Hein, j'ai pas. Ou alors, ça vaudrait dire que j'ai pas assez travaillé sur moi. Bonjour Arnaud.
Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel.
Bonjour Arnaud.
Alors, je crois que vous étiez surtout très porté sur la chose quand vous étiez plus jeune, hein, c'est ça?
Oui, effectivement, ouais. Je trouve que le sujet a du sens parce que je trouve que c'est quand même un sujet qui peut revenir souvent dans les relations de couple. Et moi, effectivement, j'avais eu, dans la période surtout adolescente, hein, beaucoup d'hormones, etc. Donc, du coup, plutôt demandeur. Et j'ai été confronté à ça, à cette demande, et est-ce que l'autre est vraiment désire aussi cette même chose. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les couples. Et en fait, j'ai fait le constat que il y avait besoin de toujours, bien sûr, respecter le consentement de l'autre, mais aussi d'écouter ses propres besoins. Et je pense qu'il y a des personnes qui seraient plutôt à la demande, et je pense que si on est trop confronté à une réponse négative dans l'autre partie, eh ben, qu'il fallait aussi prendre ça en compte. Et je pense que c'est une question d'équilibre, finalement.
Mais vous dites quelque chose, il y a plein de choses à ajouter sur ce que vous dites. D'abord, quoi qu'on en dise, on a plus enfin, le désir est plus fort et plus prégnant quand on est jeune, notamment après la puberté. Avec l'âge, les choses se calment quand même un peu. Ça dépend évidemment des individus, mais c'est des généralités que je dis, mais elles sont quand même importantes à rappeler. Ensuite, oui, l'homme, naturellement, est plus proche de ses besoins sexuels que la femme, ce qui ne veut pas dire encore une fois que tous les hommes sont des obsédés sexuels et que les femmes sont frigides. Mais c'est vrai que dans un couple, c'est plus souvent l'homme, d'abord parce que il est conscient de son érection, ce qui n'est pas forcément le cas, elle n'est pas forcément consciente de sa lubrification, les femmes, et nous on passe parfois à côté de notre désir qui pourtant parfois est là. Voilà. Maintenant, ce qui est important, Arnaud, c'est d'arriver à pouvoir communiquer sur ce sujet dans le couple. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, de complètement difficile, compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais on a l'impression que c'est un sujet impossible à aborder paisiblement.
Ouais, mais de toute façon, je pense que vous avez dit le mot, le nerf de la guerre, c'est la communication. Je pense que vous le dites assez de émissions, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a déjà à se connaître soi, à connaître
mais
l'autre,
oui, mais
à bien sûr communiquer
vrai ce que vous dites.
Sur les désirs de chacun.
Mais sauf que quand on est jeune, on ne sait pas qui on est, et puis parfois on ne le sait pas, on le sait jamais d'ailleurs.
Oui, et puis le corps est le premier étranger. Je veux dire, c'est une machine extrêmement complexe, très sophistiquée, qui envoie des signaux qu'on ne comprend pas toujours, qui envoie des images qu'on ne parvient pas toujours à accepter, à tolérer. Réussir à communiquer avec l'autre, c'est d'abord pouvoir cheminer vers sa propre altérité personnelle, vers sa propre étrangeté. Le monde du fantasme n'est pas canalisable, pas conforme, il résiste au social. Moi, les patients que je reçois, la plupart du temps, ils ont peur de leurs fantasmes et de toutes ces idées qui les traversent sans qu'ils puissent déterminer d'où elles viennent. Sans parler du fait que toute cette vie-là, et je l'ai dit en introduction, puise dans un archaïque, dans une mémoire d'enfant, dans des plaisirs anciens, dans des moments où on découvrait notre érotisation en réalité. Donc tout ça fait peur et rencontre après un tabou social.
Il ne faut pas oublier, ça vous est arrivé Arnaud, ça vous est arrivé Samuel, que parfois vous avez des érections et vous imaginez même pas pouvoir avoir une érection et vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez. Hein.
Mmh.
Ça vous est arrivé aussi, Arnaud.
Bien sûr, même la fameuse érection matinale ou quoi. Mais oui.
Alors, matinale, elles peuvent s'expliquer sur un plan physiologique. Mais quand même, ça vous est déjà arrivé dans un moment assez étonnant d'avoir une érection face peut-être à quelqu'un et vous dire tiens, qu'est-ce qui se passe. Nous, on n'a pas cette malchance ou cette chance d'ailleurs, parce que c'est pas parfois très sympathique, j'imagine.
Ouais. Mais je pense que cette érection-là est entre guillemets gérable. Je pense que l'érection qui est plutôt frustrante, c'est face à un grand désir qu'on ait un non en face. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant où il faut une situation où il faut prendre du recul. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu mal à parler, j'ai un retour que j'entends et du coup, c'est un peu compliqué.
J'ai
fait cette expérience-là. Et donc, du coup, à la suite de ça, il y a une certaine prendre de recul, mais c'est toujours le consentement de l'autre qui pour moi me freinait, où je me disais la personne ne veut pas en face. Et donc du coup c'est à moi, en fait j'avais un peu ces valeurs morales et sociales qui m'ont
Vous savez Arnaud, je vais vous dire une chose et je suis une femme, donc c'est bien que ce soit une femme qui le dise. Je crois que quand un homme a un fort désir sexuel une forte envie de faire l'amour, c'est très fort et ça doit quand même être reçu, compris. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'acte, évidemment. C'est comme une femme qui pleure et qui est face à son homme qui en a rien à foutre, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose que les femmes, aujourd'hui, il y a heureusement plus de femmes qui l'entendent, mais il y a quand même chez les femmes parfois une brutalité face à votre désir sexuel qui, moi,
Surtout maintenant, parce que du coup, il y a cette arrivée du féminisme, parfois extrémiste, mais dans tous les cas, moi, je trouve que même si le désir de l'homme à prendre en considération qui est peut-être plus fort ou qu'importe, mais je trouve que le fait de dire que c'était peut-être pas le moment opportun pour ça, de prendre l'autre en considération et même de pas faire un non direct, mais peut-être venir d'une manière où il n'y a pas de rapport sexuel, mais l'homme peut finir tout seul et c'est très bien et il retrouve sa lucidité et c'est ok. Et je trouve que en tout cas moi c'est une approche qui me pose quasiment
mais je crois
problème.
je sais pas ce que vous diriez Arnaud, mais je crois que si vous venez vers une femme qui avec une érection ou en tout cas un désir très fort que vous lui communiquez, rien que le fait qu'elle puisse vous prendre dans ses bras et avoir un peu de tendresse, ça calme, enfin je veux dire, ça c'est bien. Alors que si elle vous repousse en disant tu penses qu'à ça ou c'est pas le moment, c'est violent.
Enfin, là vous parliez d'une de vos copines, c'est ça que j'ai eu du mal à saisir. D'une ex-copine
En général. De manière générale aussi, mais il y a surtout ça, moi je crois que le fait, comme vous dites, en fait, c'est de la manière de faire des choses, et encore une fois, une communication, bien sûr que si la personne me dit que je suis un obsédé, alors que, je sais pas, c'est une fois par semaine, bien sûr que là, il faut pas se remettre en question et se dire, bon, bah, moi, j'ai des besoins qui sont beaucoup plus grands, et arriver à trouver cet équilibre-là dans le fait de trouver la bonne relation, on se dit, bah, là, on est à peu près homogène, nos désirs nous correspondent à tous les deux, et ils sont aboutis, et je pense que c'est ça.
Non, mais il faut trouver le compromis, voilà, comme pour tout. Ouais.
Exactement. Vous prenez le problème dans l'autre sens, oui.
Ouais, soit le désir est trop différent, et en ce cas, eh ben, du coup, ça pèse trop sur la relation, et eh ben, c'est bien de changer aussi, et de se dire, bon, bah voilà, c'était quand même un besoin qui doit être apporté, qui doit être nourri par l'autre, et en communion, et puis je trouve que c'est un moment qui est quand même c'est fantastique, et donc du coup bah il y a prendre de la considération pour cet acte-là, et puis aussi le fait de dire bon bah voilà, bah peut-être que là c'est pas possible, et de se remettre aussi en question et de dire bon bah là ok, on peut venir d'une autre manière, et puis comme vous dites, si c'est amené d'une manière où c'est compris en face, aucun problème, quoi.
Mais oui, voilà. Mais c'est merci de votre témoignage, Arnaud. On va conclure sur ce témoignage, et moi j'ai quand même envie de dire, aujourd'hui on parle beaucoup de sexualité, on a soi-disant libéré la sexualité, et on voit que dans le couple on en est encore là. Impossible de trouver des compromis sur des besoins sexuels différents. C'est quand même un petit peu, ça pose question quand
absolument.
Même
absolument. Quand on vient gratter la civilisation de l'image, on se rend compte qu'en réalité, eh bien, les fondamentaux semble bien archaïque. Oui, je suis d'accord avec vous, la réalité clinique est bien différente de la réalité médiatique.
Exactement, donc c'est pour ça qu'on va continuer à parler vrai sur ce drap. Merci Arnaud, merci beaucoup, merci Samuel Doc. Vous m'avez donné envie de relire votre livre, Éloge indocile de la psychanalyse, c'est aux éditions Philippe Ray, je le conseille donc à ceux qui nous écoutent, et puis essayez de communiquer un petit peu mieux ce week-end tous les deux sur votre sexualité, et puis peut-être que vous arriverez à trouver le compromis. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Dolovan. Arthur Vernon sera avec nous lundi. Et tiens, c'est encore un sujet intéressant. Est-ce que vous êtes plutôt exhibe ou voyeur?
Je vais écouter ça.
Je vous souhaite à tous un excellent week-end.
Sud Radio Foix.
103.7.
Sud Radio.
She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move to seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap till you're ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. The club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. See just how it be on me. Backstroke and sweat soaking on into my set sheets. When you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new
gotta give it to her.